Merci. Bonjour à tous et à toutes. Et faut que ça grandisse un peu. Donc j'ai voulu aussi moi-même faire allusion au mariage ce matin. Donc c'est raté. Hein. Donc Jean il m'a devancé. Tant pis. parce que je pensais donc vous apporter en deux parties. Dans une première partie là, basée sur un texte ou plusieurs textes, et une deuxième partie où j'ai fait venir donc un frère. Bon, il n'est pas là en chérios, il est là en enregistré quoi. Parce que c'est un, quelque chose qui m'a vraiment travaillé ces derniers jours. Ça y est. Et donc je commence là par ah ben voilà. Hein? C'est peut-être moins doux, mais en fait, vous entendez au moins. Et puis, donc, je voulais commencer avec une lecture en Osée, chapitre 2. Et puis, dans un deuxième temps, nous allons écouter donc, ce document sur... donc, c'était juste un petit témoignage, hein, un témoignage donc, sur un projet de Dieu, donc pour toucher la cité... et je vais l'introduire tout à l'heure. Mais dans un premier temps, un petit apport, je pense dans les lignées de ce que nous avons déjà eu et partagé avec Dieu ce matin. J'étais ému, justement, comme John également, là. Je t'ai appelé Jean tout à l'heure, je m'en excuse. Par ce moment de louange. Je ne sais pas si votre cœur a été touché. Si c'est le cas, c'est un bon signe. Parce que le Seigneur, il est là pour nous toucher les cœurs, pour les rendre quand même souples, obéissants, tendres devant lui. Parce qu'il a un projet pour nos cœurs. Amen. Donc ça, c'est la première partie. Et nous commençons dans ce texte, Osée chapitre 2, à partir du verset 16. On en a parlé, je pense, il y a plusieurs semaines. Je suis revenu là-dessus ces derniers jours. Et donc, je tiens à parler de mon cœur, si le Seigneur le veut. Parce que s'il veut toucher mon cœur, il veut aussi que je puisse m'exprimer avec mon cœur. Donc, je ne sais pas comment ça va sortir. Hein. Parce que les cœurs... Hein, on a l'habitude, n'est-ce pas, à nous masquer et puis à mettre toutes sortes de façades en place. Lorsque Dieu touche notre cœur, il peut y avoir d'autres choses qui sortent. Pourquoi pas? Parce qu'on est quand même des gens de cœur. Hein, c'est le cœur qui est vraiment donc au fond de notre être. C'est pour cela que Dieu veut nous parler, dans ce sens-là. Donc, Osée, c'était un prophète en Israël, donc le royaume du Nord à l'époque. Et on lui avait demandé donc de se marier avec avec une femme qui est devenue prostituée, semble-t-il. Donc c'est un peu donc une image du rapport qui existait entre Dieu et Israël, comme quoi Dieu voulait être le mari d'Israël. Et finalement, il était tellement déçu et trempé par ce manque d'amour. Ce manque de fidélité de part de son peuple. Donc, quelque part, Osée a dû servir comme une espèce d'image de ce qui n'allait pas entre Dieu et son peuple. Oui, donc on va prendre la voiture dans un premier... La voiture. La lecture. Non. Restez là, s'il vous plaît. Hein? Non, mais on a l'habitude, hein. On va pas. Hein? Moi, je prends la voiture tous les jours, donc. Mais pas ce matin. Si, c'est déjà fait. Donc, je pense que dans ces premiers versets, nous constatons, donc, au début du deuxième chapitre, qu'il y a eu échec. Il y a eu une tromperie terrible. Ça n'a pas du tout marché. Et le peuple est allé s'allier auprès d'autres dieux. C'était le dieu de Canaan. Des fausses idoles, des faux aimants, si on peut le dire ainsi. Hein? En disant cela, donc, vous verrez peut-être pourquoi j'avais en tête aussi le mariage de notre, enfin pas le vôtre, hein, mais notre prince Charles et la nouvelle duchesse de Cornouailles. J'ai bien dit Cornouailles plutôt. De Cornouailles. Hein, parce que c'était assez particulier. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Mais ce que Dieu a vécu avec son peuple, c'est encore plus catastrophique, quelque part. Donc le voilà, à partir du verset 16, « C'est pourquoi voici qu'en la séduisant, moi je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. De là je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor comme une porte d'espérance. Elle y chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, oracle de l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. Et tu ne m'appelleras plus mon Baal. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals. On ne se souviendra même plus de leurs noms. En ce jour-là, je conclurai pour eux une alliance avec les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles du sol. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, je les ferai se coucher en toute sécurité, je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai à moi avec justice et droit, loyauté et compassion, je te fiancerai à moi avec fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai l'oracle de l'Éternel, j'exaucerai les cieux, ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le vin nouveau et l'huile, et ils exauceront Jisréel. Je répandrai pour moi de la semence dans le pays, et j'aurai compassion de l'eau Rouhama. Je dirai à l'eau amie, tu es mon peuple, et il dira, mon Dieu, mon Dieu. Amen. Je pense que Dieu a envie de nous aimer. Il en a fait la preuve depuis 2000 ans, enfin déjà en Jésus-Christ. Et je pense que cet amour a toujours envie de se renouveler. Mais en nous aimant, il nous a déjà choisis pour devenir des agents de transformation. Ça, c'est la deuxième partie. Mais ça commence dans le cœur. Ça commence par cette tentative de sa part, de nous séduire, de nous attirer à travers la croix, on a dit tout à l'heure, de l'attirer vraiment au centre, au sein de son être, c'est-à-dire l'amour qui a été manifesté en Jésus-Christ. Parce qu'il veut que nous puissions être un peuple séduit, pour être donc à notre tour un peuple séducteur. Donc ici, j'ai remarqué donc qu'il proposait à son peuple de les attirer, de les faire venir dans le désert. Et j'ai eu la pensée tout à l'heure que lorsqu'on rentre dans le désert avec Dieu, donc oui, c'est une période d'aridité et de sécheresse, c'est ça le désert, n'est-ce pas? Mais aussi cette entrée est quelque part garnie par un tapis rouge. Ce n'est pas un tapis couvert avec du sable, parce qu'il y a des tempêtes de sable dans le désert, mais c'est un tapis rouge, comme Elisabeth disait, taché par le sang de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il a payé le prix d'entrée de pouvoir se laisser accompagner par lui dans le désert. Vous savez, parce que dans le désert, on a besoin quand même d'être nourri. Il n'y a pas de McDo là. On a besoin de boire, de dormir quelque part. Et son peuple avait même vécu ça pendant 40 ans, en pouvant se nourrir, des fois en revendiquant les choses, parce qu'ils pensaient crever, n'est-ce pas, de faim ou de soif. Donc ils avaient mal convoité certaines choses, surtout au niveau charnel. Mais ils avaient vécu ça, et ça donnait quand même une leçon énorme à tous les niveaux, comme quoi lorsque Dieu les a fait sortir d'Égypte, c'était parce qu'il voulait en faire de son peuple un peuple marié, un peuple de fils et de filles adultes qui serait quand même d'accord à rentrer dans l'école du désert et d'apprendre de faire tous les cours tous les jours et d'en sortir quand même à la fin avec un beau diplôme. Hein, ça y est, réussi. On est sorti du désert. Malheureusement, ils étaient seulement à deux pour avoir vraiment, qu'est-ce qu'on dit, qualifié, quoi, pour être qualifié suite à cette traversée. Mais ici, de nouveau, quelques centaines d'années plus tard, Dieu invite son peuple à revenir dans ce fameux désert. Est-ce que vous avez vécu un temps de désert? Est-ce que vous le vivez actuellement? Moi, je sens qu'on est à plusieurs, sinon tous, qui sont là. Parce que autrement, pourquoi est-ce que vous êtes venu au culte? Je pense que vous vivez, nous vivons quelque part, peut-être un début de désert, une situation où on a du mal vraiment à se situer, comme quoi, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends plus rien. Où est-ce que je me trouve là? Dieu, où es-tu? Parce que des fois, vous savez, on rentre dans le désert et puis c'est un peu la solitude. Hein. On ne sait pas où il est, il semble quand même se cacher. Il n'y a pas derrière l'arbre parce qu'il n'y a pas d'arbre. Il n'a pas grand-père, il est dans un palmier parce qu'il n'y a pas encore de palmier, mais en fait, on est là et on se demande pourquoi. Et je pense que la première raison est là, je parlerai à son cœur. Vous savez, parce qu'on est tellement préoccupé au niveau du cœur et du subconscient et tout ce qui nous bombarde tous les jours avec de fausses messages et de fausses voix. Et quelque part, notre cœur n'est pas toujours réceptif et n'est même pas peut-être sur la bonne longueur d'onde en rapport avec Dieu. Moi, je sais que personnellement, j'ai besoin de silence. Hein, mais non, on peut mettre des CD des fois, mais ça fait du bien. Mais en fait, pour retrouver Dieu, j'ai besoin quand même d'un temps de silence. Et ce n'est pas même garanti qu'après 10 minutes ou qu'un quart de silence, que je rentre dans la présence de Dieu. Des fois, 1 heure, 2 heures, et même pas. C'est vrai, le désert, ce n'est pas facile à gérer. Mais Dieu choisit pour chacun d'entre nous, je pense, ce type de temps. Parce qu'il nous aime. Et quelque part, il a envie de rentrer dans notre cœur, de nous séduire de nouveau, parce qu'avec le cœur, on aime. Avec le cœur, on s'exprime avec toute l'affection de base. Donc Dieu nous invite dans ce temps de désert pour nous préparer, enfin plutôt pour parler à notre cœur. Je pense qu'il n'est pas tellement pressé pour les projets. Il veut que ça passe par le cœur en premier. Et donc dans ce texte, justement, nous relevons le fait qu'il y a eu donc cette infidélité au culte en rapport avec le culte de Baal. Le Baal, ça veut dire maître. C'était le dieu de Canaan. Donc c'était le dieu des tribus qu'il fallait chasser. Ils ont tenté de chasser les gens, mais ils n'ont pas chassé le Dieu. C'était l'envers, qui est arrivé. C'était le Dieu de la fertilité, de la végétation et du sol. Et Israël se sont laissés séduire par ces dieux-là, quand quoi ils avaient oublié de vraiment venir au Dieu d'Israël et de reconnaître que c'était lui qui était le seul Dieu, le Dieu unique qui les avait quand même fait sortir d'Égypte, qui voulait être comme l'aime le Père éternel. Vous vous rendez compte juste quel point on passe à côté des fois de réalité. On oublie même des expériences du passé et puis on se laisse séduire par d'autres dieux. Je me suis posé la question donc ces derniers jours, c'était quoi, vendredi ou... Je pense que c'était vendredi, oui, parce que donc le mariage a été quand même déplacé. Donc on sait que les obsèques du pape, c'était donc vendredi. J'étais impressionné de pouvoir tout ce monde, un monde fou qui était présent. Pas seulement un monde religieux, catholique, chrétien, de toutes les confessions, mais un monde aussi non religieux. Mais pourquoi, je me suis dit, Pourquoi? Et donc, en parlant avec quelqu'un hier, je me trouvais en train de dire, ben, écoute, pour moi, c'était parce que les gens savent que derrière la politique, derrière donc cette mélange de religions, par exemple, peut-être pas trop chrétienne, hein, il y a autre chose. Il y a une autre réalité, il y a une autre spiritualité. C'est quelque chose d'intime et de personnel qui a vécu quand même entre nous et Dieu. Et peut-être je ne l'aurais pas dit il y a plus des années, mais suite à ce que j'ai compris cette semaine, je pense que le pape incarnait ça dans sa vie personnelle, dans sa façon quand même de se comporter, dans pas mal des messages qu'il transmettait au monde. C'était un homme de paix et c'était même un homme de Dieu. Et tous les gens sont venus à Rome, le monde entier, c'était la capitale du monde pendant ces quelques heures, parce que les gens cherchent la clé de la solution, à la solution des problèmes personnels et les problèmes mondiaux. Et donc dans ce texte alors, nous lisons que la vallée d'Achor, au verset 17, deviendra une porte d'espérance. Donc quelque part, hein, lorsqu'il y a difficultés et troubles, Dieu est en train de préparer déjà une sortie glorieuse. On a du mal, nous, hein, à calculer tout cela, parce que lorsque les circonstances donc, sont difficiles à gérer, mais on a l'habitude de se renfermer un peu là-dedans, on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et puis on déprime, on se décourage. Mais tout le temps, Dieu est en train de nous dire, non, mais écoute, je te mets dans cette situation-là pour que tu puisses vivre autre chose et trouver une porte de sortie qui va me glorifier et qui va te rendre aussi plus obéissant et plus souple entre mes mains. Vous savez, la vallée d'Achor, c'était là où le peuple d'Israël, ils avaient vécu quand même quelques petites difficultés. En entrant dans le pays de Canaan, ils devaient quand même aller assaillir et capturer une ville qui s'appelait Haï. Mais il y avait quand même un petit menteur, traiteur, un traître plutôt, pas un traiteur, dans le camp d'Israël. Il s'appelait Achan. Et il avait caché, enfin lui, il avait volé des choses qui étaient vouées à l'interdit, et il les avait cachées sous sa tente. Donc il y avait de l'argent, il y avait des robes, il y avait des vêtements, il y avait toutes sortes d'or, je pense. L'argent, apparemment, à l'époque, était quand même plus précieux que l'or, donc il a mis l'argent tout en bas. Puis il a été obligé de confesser devant les Israéliens que c'était lui le coupable qui avait provoquer une défaite cuisante devant cette ville. Une seule personne qui a provoqué le désastre. Donc c'était la trouble. Et puis finalement, en ôtant donc ce péché, et à l'époque quand même c'était assez flagrant, enfin assez dur, il était lapidé avec toute sa famille, avec tous ses biens, hein, on a laissé un monceau là de pierre, là où il gisait. Et mais suite à cela, cette ville d'Haï était quand même capturée. Dieu a donné une deuxième chance, et ils ont pu rentrer dans la ville. Et donc finalement, le peuple de Dieu a pu repartir, ayant su revenir sur une obéissance qui était une désobéissance flagrante dans un deuxième temps. Et vous savez, Dieu, il nous donne ô combien de deuxième et de troisième, le millième de chance pour repartir sur le bon chemin. C'était le cas. Et ça nous a touché l'autre jour. Elisabeth, tu t'en souviens, lorsqu'un frère qu'on a croisé en Angleterre, qu'on ne connaissait pas, il nous a passé un petit mot, et c'était ça le mot. La vallée d'Achor deviendra une porte d'espérance. La vallée du trouble deviendra une porte d'espérance. Les circonstances difficiles deviennent une porte d'espérance. Amen. 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 C'est bon. Vous avez capté là, hein? Donc, ne mettez pas de côté, n'essayez pas d'enterrer dans ces choses qui ne vont pas. Dieu n'a aucun problème avec les choses qui ne vont pas. C'est son tissu de base, c'est sa matière crue pour créer quelque chose de nouveau dans nos vies. Merci Raphaël, je vois qu'il est d'accord. Hein? Je vois tes yeux là, puis ça commence à bouger. C'est vrai, tu en as vécu aussi. Mais Dieu va te donner une porte d'espérance. Une porte d'espérance. Et en regardant derrière toi, tu ferais, ah, merci Seigneur, parce que finalement sans ça, je n'aurais pu jamais me trouver là où je suis maintenant. C'est comme ça que Dieu nous éduque, hein, pour que nous puissions aller de plus en plus haut. Et donc là, je suis impressionné ici par le fait que Dieu, au verset 18, il dit, « Tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon Baal. » Je pense qu'on a chanté tout à l'heure, « Tu es le maître. » C'est quoi, « Tu es le maître de... » Tu es mon maître, je ne sais pas. Ça me fait penser au Baal, parce que Baal, ça veut dire maître. Donc finalement, au lieu d'appeler Dieu maître, au lieu d'être soumis à le mari suprême et unique, ils étaient soumis à un autre maître, à peine un maître, donc Baal. Et Dieu, en le parlant au cœur, il veut changer le langage, parce qu'il dit « Tu m'appelleras ». Vous savez, lorsque le cœur est changé dans ce désert, on commence à avoir un autre langage. On a une autre manière de vivre cette intimité avec Dieu. Oui, Dieu veut nous faire venir à un autre niveau d'appréciation de sa présence. Je l'ai senti ce matin dans ce culte de louange, où tout ce que nous avons comme potentiel d'aimer est quelque part séduit, ou exploité, si c'est le terme, par cette présence glorieuse qui est celle de Dieu. Mon mari, c'est beau, hein? Élisabeth, tu peux me le dire, mon mari. Non, mais il y a déjà ce sens de propriété personnelle, hein? Tu es à moi, tu es le mien, et mes maris, on est mariés. Et puis là, il y a un autre verset qui dit, c'est pour toujours, au verset 21, « Je te fiancerai à moi pour toujours. » Vous savez, le mariage, c'est pour la vie. Et cette affaire d'amour avec Jésus, c'est pour toute la vie. Hein? C'est pas seulement pour les beaux jours, c'est aussi pour les mauvais jours. Amen. Et dans ce texte également, nous voyons qu'il y a il doit y avoir une reconstruction d'une vie conjugale. Vous savez, lorsque ça casse dans le couple, donc il faut recoller les morceaux, il faut aller plus loin que ça, il faut mettre du bon ciment, reprendre les choses à zéro, se demander pardon, et puis aller plus loin. Et là, on a plusieurs niveaux qui sont donnés, ici, de reconstruction, des fondements nouveaux, qui sont proposés par Dieu. Je te fiancerai à moi, c'est verset 21, avec justice et droit. Juste et droit, c'est quoi? Je pense que c'est l'idée de base, c'est cette alliance que Israël avait avec Dieu, qui devait être renouvelée. Vous savez, dans une alliance, les deux parties se donnent l'une à l'autre. Dieu s'était toujours donné à 100% à Israël. Et là, Israël, ils étaient arrivés à 0%, il n'y avait pas un quid pro quo, il n'y avait pas de répondant de la part d'Israël, et finalement, il n'y avait vraiment pas plus de mariage. Sauf que Dieu, comme il fait toujours, le mari parfait, tenait tout en place avec cette alliance, où il s'était engagé, où il s'engage toujours avec nous, avec son Église, sur cette vie, pour renouveler tout ce qu'il nous a jamais dit, toute cette alliance qui découle donc de ce contrat avec Jésus. Je pense que c'est aussi une alliance par laquelle les membres de son corps sont exhortés à s'allier ensemble, à vivre quand même une communauté d'engagement mutuel, une communauté, Seigneur, où une communauté plutôt où on s'engage quand même pour se soutenir, pour se téléphoner, pour se faire du bien, pas seulement le dimanche, mais tous les jours. Donc une alliance par laquelle nous accomplissons toutes les exigences envers Dieu et envers les autres. Et aussi loyauté et compassion. C'est également ce sens quand même de fidélité où on a à cœur donc le bien-être des uns et des autres. Je te financerai à moi avec justice et droit, loyauté et compassion. Cette compassion par laquelle on se donne, parce qu'on aime Jésus, donc on se donne à l'autre, donc on va plus loin que ce qui est normal, même dans une société française, vous savez, à un moment donné, on s'arrête parce qu'on veut pas trop déranger. Mais on se dit, non Seigneur, moi je veux déranger avec ton amour, moi je veux déranger pour toi, parce que je sais que tu m'appelles à me donner, à faire le don de soi envers tel ou tel. Tellement y a-t-il de personnes là qui crèvent autour de nous. Et donc cette fidélité aussi de base, c'est le troisième niveau. Je te fiancerai à moi avec fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Je pense qu'il s'agit là donc de repartir avec Dieu et de savoir que celui qui s'est engagé pour nous depuis toujours reste aussi fidèle que jamais. Ce n'est pas toujours le cas dans le domaine humain, hein, dans le couple, dans la relation communautaire. Quelque part, il peut y avoir baisse de chaleur, baisse d'amour, mais avec Dieu, non. La fidélité, sa fidélité reste au beau fixe parce qu'il est Dieu. Il ne peut pas nous lâcher prise. Il ne peut jamais nous abandonner. Mais il s'attend à ce qu'on revienne à lui. Il passe toutes ses journées en attendant, en patientant qu'on revienne à lui, tellement son cœur est accueillant. Mais sans qu'on revienne à lui, il n'est pas épanoui parce qu'il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant qui peut chérir, qui peut aimer du fond de son cœur de Père parfait. Amen. Et puis aussi, lorsque ce mariage est reconstitué avec Dieu, il y a une nouvelle fertilité. Parce que bon, c'est ça le mariage. Hein? Dieu a mis la fertilité dans chaque partenaire et ça crée du fruit. Ça crée donc la fécondité, ça crée des enfants. Je pense que c'est ça que Dieu a à cœur aussi. Ici, le verset 23 et la suite, on l'a lu. « J'exaucerai les cieux, ils exauceront la terre exaucera le blé, le vin nouveau et l'huile, et ils exauceront Jisréel. » Enfin, Jisréel, c'était un lieu de massacre, un lieu d'une grande cruauté. C'est là où il y avait Jézabel, la reine Jézabel, hein, et donc son mari Ahab, et qui avait voulu quand même tuer tout ce qui était prophétique, surtout donc à travers donc le ministère d'Élie. Vous savez, il s'est sauvé un jour-là de cette fameuse reine. Et c'est là où Dieu dit, en essayant de transformer un peu le nom, de mettre un autre sens dans ce terme de base, il est en train de dire, là où il y avait difficulté, où il y avait même des esprits mauvais, hein, qui se manifestaient contre donc l'œuvre de Dieu, Dieu allait planter dans ce même terrain, de nouveau. Parce que Jisréel, ça veut dire Dieu sème. Lorsque nos relations et nos rapports sont renouvelés avec le Seigneur, Dieu peut semer de nouveau. Dieu donne une nouvelle fertilité afin que nous puissions produire, afin que nous puissions avoir la joie de créer, de faire les choses pour lui. Et c'est ça, sa volonté pour la petite communauté source de vie. Je pense que c'est pour cela qu'on vient dans le désert. Parce qu'il nous appelle à rentrer de nouveau dans ce mariage d'amour, de retrouver notre Créateur et notre mari. Amen. Je termine avec une lecture. C'est avant cette lecture, juste pour dire que dans l'Orient à l'époque, donc les mariages, enfin les fiançailles plutôt, étaient assez bien préparées. Donc il y avait toute une formalité derrière. Il a fallu négocier avec les parents en rapport avec la future mariée, là. Soit les parents avec des amis. Ensuite, donc, il fallait verser une somme d'argent, donc un peu le dot. On dit ça le dot en français. Et puis, il y avait un temps aussi d'attente, hein, avant que le mariage soit consommé. Il y avait un temps d'attente. C'était encore les fiancés, mais tout le monde savait qu'ils étaient engagés l'un pour l'autre. Et je pense que le Seigneur nous donne un temps d'attente dans peut-être un lieu de désert en ce moment pour préparer la suite de son projet. Je veux lire ce texte, vous allez entendre. Puis après, on va passer à la cassette. Triomphe stérile. Amen. Ça y est, vous captez là. Triomphe stérile, toi qui n'as pas enfanté, éclat en cri de triomphe et jubile, toi qui n'as pas connu les douleurs, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, quand des fois les toiles de tes demeures, ne les ménage pas, allonge tes cordages et affermis tes piquets, car tu te répandras à droite et à gauche, ta descendance prendra possession des nations et peuplera des villes désolées. À partir de cette stérilité, même les villes désolées pourront être repeuplées. Vous savez, le Dieu n'a aucun problème de changer les villes, sans plus grand défi, c'est de changer les cœurs. Parce que ça, c'est une question d'une volonté personnelle et d'une consécration individuelle et communautaire. Mais une fois, Ésaïe 54, merci John, une fois, tout est remis à neuf, ça peut aller très vite. Et moi, je le crois aussi bien que Jean-Luc et que les autres parmi nous, je crois. Mais je sais qu'en ce moment, j'ai des problèmes avec mon cœur. Et je sais que le Seigneur veut, non, je ne parle pas du point de vue physique, spirituellement parlant, le Seigneur veut que mon cœur soit plus disponible et plus ouvert à lui. Parce que derrière nos cœurs, derrière donc cette histoire de mariage avec lui, il y a des projets pour changer nos cités. Amen. Dieu, il est à l'œuvre. Vous savez, s'il a un projet pour nous, ce n'est pas parce qu'il n'est pas déjà à l'œuvre en nous, bien sûr, depuis de longues années, n'est-ce pas, Véro, hein? Mais autour de nous. Je ne sais pas, au moins que je me trompe, hein, ça m'arrive des fois à visiter ou à voir les choses, et je me suis dit, tiens, ça c'est Dieu, il me donne un petit dessin à l'avance de ce qu'il veut faire. Et là, je ne sais pas si je l'ai dit, l'autre jour je suis allé avec la famille, là, c'est à Sainte, à Mosaïque, je ne sais pas si vous connaissez là, les gens du coin là. C'est ce jardin botanique qui est une espèce de vitrine pour tout ce qui se passe entre les nations. Vous savez, la communauté urbaine, ils ont mis en place un très beau parc là, mais c'est fait de fleurs, d'arbustes, toutes sortes de choses qui représentent quand même différentes zones climatiques. Et il y a des grandes, qu'on appelle ça, des espèces de voiles avec des têtes des gens là-dessus qui représentent les gens qui sont venus habiter sur l'île des différents coins du monde. Hein? Donc c'est une espèce d'image, enfin une parc imagée de tout ce qui est cohabitation entre les nations. Et je me suis dit en sortant, tiens, c'est ça que Dieu veut faire avec son Église. Qu'on soit la vitrine, pas botanique, mais biologique et spirituelle, donc visible, de ce que Dieu veut faire entre les nations. Parce que la société d'aujourd'hui, ils ont du mal à gérer tout cela. Mais Dieu, il a déjà un projet à travers son Église de faire, d'impacter, on dit pas impacter en français, de faire cet impact de la présence de Dieu qui passe par les gens qui vivent en harmonie et en unité. Et puis à ce moment-là, on va ouvrir le parc, enfin l'église, et tout le monde viendra pour savourer la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc ce document, ça dure juste 2-3 minutes, hein. Ce document, donc c'était ça sort d'un séminaire. J'avais assisté moi au premier séminaire, donc ce deuxième séminaire. Donc c'était des deux frères qui sont sortis de Jeunesse en Mission, c'était le responsable. Celui-là, il s'appelle Étienne Adjer. C'est un grand homme de Dieu qui a vécu toutes sortes de déboires, de difficultés ces derniers temps parce qu'il a changé un peu de cap et à quatre, ils ont commencé à chercher la face de Dieu pour trouver son projet en rapport avec les cités dans lesquelles il se retrouve. Donc, ils sont devenus un peu des hommes d'affaires pour Dieu au niveau de la foi. Et là, pendant 4 ans, ils ont vu que tout était cassé, tout tombait à l'eau, tout ce qu'ils voulaient monter en tant que projet en France, c'était comme si c'était voué à l'échec. Ils ont dû passer par le désert. Et là, maintenant, il y a autre chose qui se construit. Dieu est à l'œuvre à travers eux. Et là, c'est un petit témoignage de sa part de quelque chose qui s'est passé ailleurs. Mais ça m'a frappé. Écoutez-le. Ça pourrait être un projet similaire pour vous, pour nous ici, à Wavrin, dans n'importe quelle ville. Merci à Jacques. Vas-y. Où? N'a rien? La deuxième face? En vous racontant ça très brièvement, c'est-à-dire, il s'agit là de quelqu'un qui rêvait, qui avait un rêve, enfin, dans le sens qu'il voulait quand même monter un projet, et pourquoi pas un projet quand même en rapport avec tout ce qu'on avait envie de faire. On laisse tomber. C'est pas grave. Et donc, ils commandent donc ces personnes, je pense que c'était dans le cadre d'une communauté chrétienne, ils se sont dit, tiens, il doit y avoir quand même dans notre communauté des personnes qui ont des compétences qu'on peut utiliser, qu'on peut exploiter même. Donc, ils ont réuni tous les professionnels dans l'église, hein, tous les hommes et les femmes qui avaient des compétences, ça parlait d'architectes et d'autres personnes. Et ils ont commencé quand même à cogiter, à chercher vraiment la face de Dieu. Et finalement, ils ont même pris contact avec des communautés avoisinantes, donc des communautés chrétiennes avoisinantes, comme quoi il n'y avait pas assez de compétences chez eux, alors pourquoi pas aller à côté. Ça me fait penser un peu quand même de, comment ça s'appelle, l'association Les Roseaux, ici, comme on est allé à côté pour chercher aussi des frères et des sœurs, c'était ça à l'époque, enfin c'est toujours ça. Oui, juste une petite parenthèse là, en parlant de ça, je me suis trouvé à Uplan-en-Coin, il y a une dizaine de jours, c'était pour un petit groupe de chants, Tibériade, un groupe catholique. Je suis allé écouter, je voulais me ressourcer. C'était vraiment un peu comme les JMG. Hein. C'est vraiment un esprit de louange. Je pense que ça sortait de renouveau. Ça m'a fait tellement de bien. Et puis en sortant, je suis sorti avant la fin. Le curé, il a couru après moi. Pour me dire quelques mots, vous savez, ça c'est une très bonne tradition évangélique, hein. Il faut aller quand même mettre la main sur les gens, hein, pour avoir un contact avec eux. Et voilà le curé, le nouveau curé du paroisse qui vient me parler. on a échangé quelques minutes comme ça. Ça m'a vraiment fait un sacré bien. Je me suis dit, tiens, il y a des gens à côté avec qui on peut travailler. Il y a des gens dans les paroisses, il y a des gens autour de nous. Alors, pour revenir un peu à la petite histoire, ils sont allés voir finalement Monsieur le maire. Et le maire, donc, il disait, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes des chrétiens, finalement, je ne vous connais pas, vous êtes comme une secte. Et puis, combien vous voulez me demander pour votre projet? Ils ont répondu, rien.
Quoi?
Rien. Bah, écoutez, allez-y, vous montez votre projet, et puis on verra par la suite. Alors, après 3 mois de montage, ils sont allés et ils ont mis ce projet en place. Et finalement, ils ont commencé à travailler avec des jeunes dans le quartier, avec des enfants également. Un à un, ils sont allés donc frapper à la porte, je pense, prendre compte avec les parents, expliquer un peu le projet. Et finalement, tout était rassemblé, c'était bien ficelé. Et puis, ils ont fait une inauguration. Ils sont allés inviter M. le maire, toujours sans rien payer, pour rien demander. Alors, M. le maire est venu avec les adjoints. Et puis, ils ont même invité d'autres membres des religions non chrétiennes du secteur. Je pense que ça a dû se passer dans une grande ville. Donc, il y avait même l'imam qui est venu, le rabbin. J'aurais une petite pomme avec ça. Avant, je pense pas que ça pose un problème. On n'a pas d'imam ou de... Mais en fait, quelque part, ils voulaient voir la gloire de Dieu. Donc, il y avait M. le maire, tout le gratin de la ville qui est venu pour l'inauguration. Et ils ont fait la fête à fond. Ils ont mis des rappeurs. Ils ont mis toutes sortes de choses. Et finalement, à la fin de l'inauguration, M. le maire vient dire un petit mot au responsable en disant, écoutez, ça nous a tellement apporté. Merci. Est-ce que on peut se voir cette semaine dans mon bureau à la mairie? Et puis, je pense que c'était le pasteur, le responsable, il dit, mais bien sûr, je viendrai. Puis M. le maire dit, parce que j'ai trompé ma femme et finalement j'ai besoin d'aide. Donc, le pasteur est allé et il a pu entrer dans une relation d'aide avec M. le maire et sa femme. Finalement, le couple était reconstitué et M. le maire a demandé que tous les mois, ils puissent avoir ce moment de prière ensemble, que les adjoints aussi soient invités dans le temps de prière. Amen. Le projet, c'était pour, je pense que c'était en rapport avec la jeunesse dans la ville. C'était dans une cité, vous savez, un de nos quartiers chauds d'une grande ville où les chrétiens se sont mobilisés pour vraiment mettre en place la gloire de Dieu sur un projet où tout le monde avait apporté quelque chose. Vous savez, avec toutes ces compétences professionnelles, chrétiennes, pastorales, je pense que ça, c'est le projet de Dieu. Vous savez, c'est possible à prier pour nos villes et de voir nos villes changer par la gloire de Dieu et pour la gloire de Dieu. Amen. Moi, je le crois. Ils appellent ça sous la cassette. Ils appellent ça rentrer dans la dynamique du royaume. Lorsque le Seigneur touche notre cœur, il peut aussi toucher le cœur de la ville. Amen. Comme vous voulez. On va peut-être prier. Non, on ne va pas prier. On ne va pas prier, je vais demander peut-être à Myriam, si tu veux bien, parce que j'avais ça à cœur au début. On va terminer avec ce chant. Enfin, je vais te demander de le chanter en solo. C'est le même chant que tout à l'heure. Et je pense que le Seigneur nous invite là à rentrer dans son projet. C'est le voile déchiré, de passer par ce voile, de rentrer dans sa présence, et qu'une fois que nous aurions capté sa présence, de pouvoir préparer avec lui son projet ou ses projets. Amen. Donc Myriam va nous l'entendre comme ça.
Amen. Jésus, je te suis, Jésus, par le voile déchiré. Jésus, je te suis, Jésus, par le voile déchiré.
Faites-le votre prière. Rentrez dans le désert. Rentrez dans le cœur de Jésus. Il t'attend. Il a des projets d'amour pour toi. Il vient de commencer son projet de séduction. Il t'attire. Il t'attire à lui. Sans lui, tu peux rien faire. Sans lui, on n'est rien. Tout le monde. Je te suis, Jésus. Je te suis, Jésus. On le déchirait. Je te suis, Jésus. Je te suis, Jésus, par le voile déchiré. Je te suis, Jésus, Jésus, par le voile déchiré. Je te suis, Jésus. Je suis Jésus, par le voile déchiré.
Seigneur, merci parce que tu nous tends les bras maintenant, ton cœur est ouvert. Seigneur, nous te suivons. Je te suis Jésus, par le voile déchiré. Oui, Seigneur, ce tas de tissus qui est là, tout chiffonné, Seigneur, tout a été déchiré. Et Seigneur, maintenant, l'accès est ouvert. Et Seigneur, si c'est un accès dans le désert, nous voulons te suivre jusque-là. Seigneur, pour te retrouver, toi, le Dieu des sorties des déserts, notre mari, notre aimant parfait. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, ensemble maintenant, nous rentrons dans ton projet d'amour. Amen. Bonne route dans le désert. Bonne traversée.